c'est le moment d'aller faire un tour à New York et saluer Richard Châteaubert. Bonjour Richard!
Bonjour Paul, je vous souligne que Coney Island a rouvert après 18 mois ce week-end. Alors, évidemment, distanciation sociale, mais la vie reprend son cours normal ici. Hier, c'était absolument animé dans les rues. Sous ma fenêtre, les jeunes mangeaient. Évidemment, ici, on a les bottomless brunch, les brunchs sans fond. Ça veut dire que pendant une heure, vous payez genre 29$ et pendant une heure et demie, vous pouvez boire à volonté. Donc, je vous dis, c'est très animé. Ça a été animé.
Richard, juste pour situer, Coney Island, c'est le parc d'amusement légendaire. Oui. Comme nous avions à Montréal, à une certaine époque, le parc Belmont.
Ah, c'est légendaire, Paul, ça a ouvert au tournant du 20e siècle.
C'est près de Brooklyn, hein?
C'est à Brooklyn, effectivement. Ouais. C'est les Hot Dog Nathan. Vous connaissez les fameux, chaque année, le 4 juillet, le fameux concours des Hot Dog Nathan. Celui qui mange le plus de Hot Dog, ben les Hot Dog.
En quelques secondes, en plus, il y a un record. On se demande comment ce champion de Hot Dog, c'est toujours le même qui revient d'année en année, peut faire pour s'enfiler autant de Hot Dog en si peu de temps.
C'est parce qu'il y a une formation, Paul. Il faut qu'il s'entraîne.
Vraiment, hein? Il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Si on veut être le champion mangeur de hot dog, ben, il faut mettre les efforts.
Oui, il est un peu mince quand même, le type, mais mon Dieu, manger des hot dogs, là, c'est pas très bon.
Bon, alors, mais Richard veut nous parler. Premier sujet, Richard, vous m'avez, et je le dis tout de suite, rappelé des souvenirs. Ah. Et vous allez nous expliquer ça, parce que il y a des gens peut-être qui attendent de retourner lorsque la frontière sera ouverte vers les plages des États-Unis. Quand j'étais jeune et vraiment enfant, mon père nous amenait à Cape Cod. C'était son endroit préféré. On allait à Dennisport, puis on allait voir les grilles de la résidence des Kennedy à Hyannis. Oh. Et puis après ça, on est allé à Wildwood, New Jersey. Ça a été très populaire. Pour les Québécois, Richard. Et à Wildwood, Richard, il est arrivé un incident un matin. On était en famille sur la plage, en train de pique-niquer. Et là, il y a eu une grande agitation. Les sauveteurs sont partis avec même des canots, tout ça. Et il y avait un touriste qui a été emporté par les eaux. Et plus il fournissait d'efforts pour revenir vers la plage, plus il était attiré au loin par le courant.
Tous nos auditeurs qui sont allés sur les plages américaines connaissent ce phénomène. Ça s'appelle des courants d'arrachement. Vous savez, quand la vague arrive et elle se brise sur la rive, ça s'appelle la petite zone, ça s'appelle la zone de déferlement. Donc, la vague se brise, l'eau se retire et les enfants voient ça puis ils se précipitent à l'eau. Mais il y a un courant d'arrachement qui nous tire à un moment donné, qui nous tire vers le large. Et là, on ne sait pas ce qui se passe. Le mois dernier, sur le golfe du Mexique, il y a un homme de 42 ans qui est mort en tentant de sauver ses trois fils de 7, 12 et 14 ans. Ça s'est fait, il venait d'arriver sur la plage. C'est un homme de Chicago. Il avait conduit avec sa femme, ses trois enfants, jusqu'en Floride, au golfe du Mexique. Et dans les premières minutes, les enfants se sont précipités à l'eau. Il y en a un qui a été emporté. Le père s'est précipité. Il a réussi à sauver les enfants, mais lui a perdu la vie. Il y a 80% des sauvetages que font les maîtres nageurs aux États-Unis. Ce sont des cas de courant d'arrachement. Il y a 100 personnes qui meurent de ça tous les ans. Et l'administration des océans a finalement développé un modèle qui va permettre de prédire à 6 jours d'avance les courants d'arrachement sur chaque plage. Mmh. Alors ça, c'est très, très, très important. Évidemment, nos auditeurs, je ne pense pas qu'ils puissent venir aux États-Unis cette année, mais l'an prochain, je pense que oui, l'an 2022. Vous allez avoir ce modèle très important de
prédiction. Ça va faire du bien, ça. Parce que, d'ailleurs, juste pour terminer mon histoire, ça s'est heureusement bien terminé. Les sauveteurs l'ont sauvé in extremis. Il était complet. Et ça avait créé un attroupement, Richard, sur la plage. Le pauvre homme était épuisé, il était à la limite, et il a raconté finalement, quand il a retrouvé ses esprits, que plus il faisait d'efforts pour revenir vers le rivage, plus le courant l'amenait au large.
Alors, ce qu'il faut faire quand on est dans cette situation, il faut nager parallèlement à la rive. Et là, les gens n'y pensent pas. Ils font exactement ce que cet homme a tenté de faire, tenter de nager contre le courant d'arrachement. Ce n'est pas, évidemment, quand on est dans un état de panique, on pense pas à ça. Mais ce qu'il faut faire, c'est nager parallèlement à la rive et sortir du courant d'arrachement. Mais évidemment, les maîtres nageurs arrivent. Mais encore une fois, écoutez, Paul, au début janvier, au nord de San Francisco, un homme de 40 ans qui a péri avec ses deux enfants de 4 et 7 ans. C'est dramatique. C'est dramatique, ce genre de situation. Oui.
Alors là, on a une autre nouvelle dont vous allez nous parler, parce que cette entreprise, on en a souvent parlé, notamment avec Mathieu Roy, l'expert en techno, la société Boston Dynamics, il se spécialise dans la fabrication de robots. Si vous allez sur Internet, vous allez voir des choses absolument incroyables.
Vous allez voir plein de vidéos de
leurs chiens robots.
Spot, le chien Spot.
Oui, ce fameux robot là qui est capable de faire toutes sortes de pirouettes comme s'il était un gymnaste.
Effectivement, il fait des saltos arrière.
Ah, c'est incroyable. Et là, ils ont un nouveau personnage, on peut l'appeler ainsi, qui aura une mission particulière.
Oui, lui, ça va être de classer des boîtes, de déplacer des boîtes dans un entrepôt. On sait que ça, c'est la tâche que les gens détestent le plus en entrepôt. Donc, ce nouveau robot, il s'appelle Stretch. Il est constitué d'une base mobile dotée de roues et d'un tronc qu'on appelle un tronc de perception, parce qu'avec tous toutes les puces électroniques, les caméras et les capteurs qu'il contient, il peut percevoir son entourage, et il a au bout un panneau de suction qui est doté d'une vingtaine de ventouses. Donc le robot, c'est pas un robot fixe, il se promène et il va vers les boîtes, il les déplace, il peut déplacer 800 boîtes à l'heure, et grâce à des batteries haute capacité, il peut travailler pendant 8 heures sans arrêt. Boston Dynamics n'a pas dévoilé le prix de Stretch encore. Il n'y a pas encore de clients, mais ça devrait. Une petite entreprise n'a pas les moyens de se payer Stretch.
Excusez, je ne veux pas vous interrompre, mais j'ai l'impression que Jeff Bezos, chez Amazon, doit regarder ça. Hein? Lui qui a évité. Il a évité le syndicat. Oui, il va peut-être se tourner vers les robots.
Stretch ne peut pas se syndiquer.
pas pour le moment, mais un jour, ça viendra peut-être. Des robots syndiqués.
Et je veux juste souligner que Boston Dynamics, une société très dynamique, elle vient d'être rachetée par Hyundai. Hyundai, le grand groupe sud-coréen, a une division robot, vient d'investir plus d'un milliard de dollars pour prendre une participation majoritaire. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Boston Dynamics, à un moment donné, était la propriété de Google.
Ah oui?
C'est comme
oui.
Ça.
Ben, c'est ça aussi
maintenant,
encore.
Donc, c'est Hyundai.
Eh bon, ah, d'accord. Oui, Thérèse, vous
non,
vouliez
mais c'est parce que
le robot?
On parlait de Boston Dynamics. Et moi, je regarde les films qu'ils font. Là. Tu sais, à chaque année, il y a à un moment donné, pendant le temps des fêtes, ils ont fait un film avec des robots qui dansent. Et c'est complètement fou parce que tu te dis, assez incroyable. Puis les photographies, des fois, dans le bois, t'as l'impression qu'il s'en vient quelque chose. C'est à la fois très excitant,
mais en même temps,
à la fois
angoissant.
Ça fait peur. Oui,
ça fait peur, ces robots-là, des fois. Ouais. Vous dites, ma foi.
Ouais.
Et on espère qu'il y aura des modèles à portée de tout le monde, à portée de nos bourses, pour rentrer la commande chez nous. J'ai l'impression, Richard, que si on faisait un Stretch...
La commande de Uber Eats.
Oui, mais l'épicerie, par exemple, il y a des gens qui pourraient acheter le petit robot et dire « Va rentrer la commande ». Parce que tu ne demandes pas ça à un ado, Thérèse.
Non.
Va rentrer la commande.
Mais ils ont ça. Ils ont des robots qui peuvent faire
les
pas
ados,
mal n'importe quoi.
Les ados vident la commande. Mais le robot... je ne veux pas aller plus loin parce que je vais être mal interprété. Alors, Richard, en terminant. Ça, c'est mon grand rêve et j'en ai fait mon deuil. Je n'irai jamais dans l'espace. Pour X raisons, mais le tourisme spatial pourrait un jour devenir extrêmement populaire à un tel point. Tenez-vous bien, Thérèse, écoutez celle-là. Ce soir, ici au Québec, Richard, c'est la finale de Big Brothers.
Oui.
OK?
Oui.
Là, vous allez nous parler, imaginez-vous, d'une télé-réalité qui pourrait être tournée dans l'espace.
Oui, ça s'appelle Space Hero. Il va y avoir 24 participants qui vont être dans un village spatial et le gagnant va remporter un voyage à la Station spatiale internationale. Ils ont déjà réservé une place en 2023. Mais vous savez que ça coûte énormément cher. Au mois de janvier, on a annoncé que l'homme d'affaires québécois Mark Pathé, avec un homme d'affaires américain, un ancien astronaute israélien, vont se rendre l'an prochain. Ils vont faire un voyage de 8 jours à la Station spatiale internationale. Ça va leur coûter 55 millions de dollars chacun. Donc pour le gagnant de Space Hero, ça coûterait environ 55 millions pour le lancer vers la Station spatiale internationale. Donc, c'est la raison pour laquelle il va y avoir 24 participants provenant de 24 pays. Alors, vous voyez déjà que ça fait 24 diffuseurs. L'émission va être diffusée dans 24 pays. Elle va être diffusée en streaming. Et donc, ça va coûter au moins 50 millions, envoyer ce participant. J'imagine que le monde entier, si ça fonctionne, c'est un projet. Vous savez ce que c'est qu'en télé, les projets, ça peut... Il y a déjà eu d'autres projets auparavant de télé-réalité liés à l'espace. Mais si ça se réalise, ce sera en 2023. Parce qu'on parle de plus en plus du tourisme spatial. D'ailleurs, je veux donner un détail très important que j'ai appris moi-même. C'est que il y a une différence entre un vol orbital et un vol suborbital. Quand on va vers la Station spatiale internationale, c'est un vol orbital et la fusée doit atteindre une vitesse de 28 000 km/h. C'est ce qu'avait fait Guy Laliberté en 2009 lorsqu'il avait été lancé par la fusée russe Soyuz. Et un vol suborbital, quand on parle de Virgin Galactic de Richard Branson, de Blue Origin de Jeff Bezos, qui vont facturer 250 000 $, ça va être des vols suborbitaux.
Ben oui, ça va durer 15 minutes.
Le véhicule va atteindre 6000 km/h. Il va être lancé verticalement à 200 km, puis ensuite il va redescendre. Alors, les passagers vont ressentir quelques moments d'apesanteur, mais c'est complètement différent d'un vol orbital là, qui coûte 50 millions de dollars. Mais on va parler de ça là, dans 3-4 ans, là, Paul. On va parler de ça tous les jours.
Merci beaucoup, Richard, et bonne semaine à New York. Et Thérèse, j'ai déjà des propositions pour envoyer des gens.
T'as des noms?
Ben oui.
Parfait.
Une télé-réalité à bord, mettons, de la Station spatiale.
Oui.
Vous envoyez François Lambert.
Oui.
Avec Marie-Chantal Toupin.
Aussi, mais
Et pour partir le trouble, l'ex-gouverneur général du Canada, qui elle-même a l'expérience.
C'est vrai.
Deux fois dans l'espace.
Julie pourrait y aller.
Julie avec...
Julie Payette.
Ce serait beau.
Un beau casting.
Oui.